À une époque où tant de corps humains sont exploités, dénudés, percés, mutilés, tatoués, massacrés, et même préparés pour une euthanasie poubellisante, l'Église nous invite à célébrer la fête du corps et du sang de Jésus-Christ. Est-ce bien actuel? Quel sens cela peut-il apporter dans notre vie quotidienne en 2025? Je vous propose deux réponses parmi d'autres à cette question. Du point de vue de la foi, cette fête s'origine dans le Concile de Nicée en 325. Face à la doctrine hérétique du prêtre Arius, Jésus-Christ est proclamé vrai Dieu et vrai homme. Arius niait la divinité de Jésus. Pour lui, Jésus était un homme seulement et tout simplement. Lorsque les évêques réunis à Nicée condamnent la position d'Arius et proclament Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme, la dimension du corps humain est aussitôt et en conséquence revêtue d'une dignité singulière, doctrinalement exprimée pour la première fois. La portée de cette affirmation rejoint dès lors tout être humain, soit pour l'interroger, soit pour l'instruire. L'interroger s'il n'est pas baptisé, ou bien peut-être s'il a oublié qu'il était baptisé, et lui mettre devant les yeux une perspective de vue éternelle dans une chair devenue immortelle dans la communion au Christ. S'il est baptisé, l'instruire de cette vérité que je viens de dire afin de savoir si oui ou non il en vit réellement. Appelé par la grâce du Christ à ressusciter corps et âme, appelé à voir Dieu dans ma chair, comme le dit Job, cela implique un certain comportement de ma part, une certaine chasteté vis-à-vis de ce corps qui est mien. Autrement dit, cela implique une attitude de respect, de soin, de protection. Adorer, célébrer, vénérer le très saint sacrement de l'autel où Jésus est présent, c'est déjà accomplir ce que nous sommes appelés à contempler éternellement et par grâce, à savoir la vision de Dieu depuis notre chair. Alors, si ma chair est appelée à cette éternelle contemplation, je ne peux plus rester indifférent à cette chair, ni la maltraiter, ni la percer, ni la peindre, ni lui faire subir toutes sortes d'amputations. Pas plus la mienne que celle de mon frère, du reste, appelé à la même destinée. Jésus a sanctifié notre chair. J'en viens à la deuxième réponse à cette question de l'opportunité de cette fête de nos jours. Celui qui descend sur l'autel à la consécration et que nous vénérons n'est pas un mort ni un symbole. Car ni mort ni symbole ne saurait être l'objet d'une vénération. Celui qui vient à la parole consécratoire du prêtre est Jésus-Christ, le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. C'est Jésus non pas mort mais ressuscité, et bien vivant. me vient à l'esprit une histoire que racontait Daniel Ange. Vous avez peut-être entendu parler de Daniel Ange. Alors qu'il prenait l'avion, il s'adresse à une hôtesse et lui dit « Tout à l'heure, vous avez eu un personnage de plus dans l'équipage. Il y avait un hôte non enregistré dans l'avion car j'ai dit la messe. » Jésus était présent. Divers miracles eucharistiques viennent confirmer cette réalité. Voyez par exemple la recension que peut en faire le bienheureux Carlo Acutis de tous ces miracles eucharistiques. L'hostie analysée lors de ces mystères s'est avérée être un tissu vivant. Vivant. Du cœur d'un homme ayant subi des souffrances violentes. Sa passion rédemptrice, celui auquel nous communions à la messe, c'est Jésus ressuscité et vivant après avoir subi sa passion rédemptrice. Le sacrifice de la messe est la réactualisation non sanglante de l'unique sacrifice du Christ au Golgotha. Ce qui signifie que dans un instant, nous serons au pied du Golgotha et que nous communierons à Jésus ressuscité. Il vient donc à notre rencontre aujourd'hui encore. Ce n'est pas par hasard si les miracles et guérisons qui adviennent aujourd'hui encore à Lourdes se déroulent très fréquemment pendant la procession eucharistique. Avez-vous une idée de ce qui se passe au moment de la consécration ? C'est plus qu'une déflagration atomique. C'est-à-dire que la grâce de Jésus qui vient sur l'autel rejoint tous ceux qui ne font pas obstacle à cette grâce. Et ça ne se limite pas au mur, hein ? Ça fait le tour du globe. C'est ce même Jésus qui vient à nous dans cette toute petite hostie lors de la communion et qui vient donc toucher de son corps le nôtre afin de guérir en nous ce que nous le laisserons guérir car Dieu ne s'impose jamais. Ainsi, lorsque nous le recevons dans notre corps, il ne faut jamais oublier de le remercier pour sa venue, de l'accueillir, de le recevoir comme une personne qui se donne à voir, à toucher, à manger si nous nous y sommes préparés. Et il n'y a rien de magique en cela, car la magie, comme tout occultisme, comme toutes les formes d'occultisme, de cartomancie, etc., ne vise jamais à nous libérer, mais à nous mettre sous la dépendance de quelqu'un. Jésus, lui, lorsqu'il nous rejoint et nous touche, nous rend libres. Voulez-vous être libre ? Cela vient de ce qu'il est la vie, il est le vivant, celui qui libère pour permettre à la vie de prendre le dessus, là où la mort, la manipulation, le contrôle, la jalousie, la haine parfois, avaient fait leur demeure. Et le signe que cette vie a gagné, comme le dit Henri Bergson, c'est cette joie qui nous vient de l'intérieur. Laissons-nous donc approcher par ce corps très saint né de la Vierge Marie et laissons-le guérir en nous tout ce qui a besoin d'être guéri, de nous nourrir afin de vivre dès maintenant en présence de Dieu. Amen.